Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour 30 minutes d'actualité sportive encore chargée avec le report des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et puis on parlera du sacre de l'Angleterre dans son Euro. Les filles ramènent un trophée pour le Royaume 56 ans après la Coupe du Monde de 1966. On salue à présent nos consultants avec qui on fera le débat et on prend la direction de Casablanca au Maroc pour retrouver Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Lizzie, bonsoir à tous.
À Kinshasa, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Lizzie et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jules Valentin Ngoué, lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Lizzie, bonsoir à tous.
De Columbus dans l'Ohio, on retrouve Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, Lawal Dinkosu est dans ce studio avec moi, toujours fidèle au rendez-vous. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée.
Sporama, c'est parti. C'est fait. L'équipe d'Angleterre de football féminin a remporté l'Euro après sa victoire 2-1 face à l'Allemagne devant le public à Wembley. Les Lions ont dû passer par la prolongation pour décrocher la première victoire d'une équipe anglaise dans un tournoi depuis 1966. Amine, les femmes l'ont fait 56 ans après.
Entre la finale de la Coupe du Monde 1966 et la finale de l'Euro 2022 est très frappant puisque c'est un Angleterre-Allemagne. Salut à Wembley. C'est la première consécration de l'équipe féminine sur le plan continental. Et visiblement, cette équipe a acquis un capital sympathie tout au long de la compétition qui a fait que le match s'est joué quasiment à guichet fermé à Wembley. L'équipe d'Angleterre a ouvert le score après avoir pendant très longtemps résisté aux assauts de l'Allemagne. C'est d'ailleurs sur un contre de Thun que les Anglaises avaient pris l'avantage. Et l'équipe d'Allemagne, qui était privée de sa meilleure joueuse Pop, a su réagir très vite. Et on est parti en prolongation. Et c'est d'ailleurs un autre parallèle entre l'Angleterre-Allemagne de la Coupe du Monde 66 chez les hommes et cette Angleterre-Allemagne de 2022 à l'Euro féminin. Et puis, on a vu une équipe d'Angleterre qui a fait le dos rond, notamment en prolongation, avant de réussir à marquer Pakeli. Une victoire de 2-1 et un succès qui vient couronner les efforts faits par l'Angleterre en termes de football féminin, avec des équipes souvent bien placées en Champions League, comme Chelsea, comme Manchester City, face à la mécanique du football allemand, face à la puissance du football allemand. C'est une belle victoire pour l'Angleterre. Cette rivalité Angleterre-Allemagne est censée durer dans le temps, notamment lors de la prochaine édition de l'Euro féminin.
Les tenants du titre allemand et Moussé ont vécu une finale difficile à Médine au vu de leurs prestations tout au long du tournoi.
Tout à fait, Élisée. Les Allemands d'entraînement du titre sont tombés les armes à la main face à une équipe d'Angleterre qui voulait coûte que coûte entrer dans l'histoire en remportant le trophée pour la première fois de l'histoire. Et ils ont réussi à le faire en s'imposant difficilement sur le score de 2-1 après prolongation dans une finale qui a tenu toutes ses promesses, car il y a eu du rythme, il y a eu des duels disputés, il y a eu aussi du suspense, mais les Anglais ont profité de l'appui du public pour pouvoir réaliser ce rêve qui date de très longtemps. Donc, comme vous l'avez dit, les Allemands étaient un peu émoussés. C'est pourquoi elles ont perdu la finale. Mais l'essentiel, c'est que l'Angleterre a été sacrée de fort belle manière, Élisée.
C'était vraiment une finale du rêve, Valdo. Ça a aussi montré le niveau du football féminin européen.
L'Euro féminin 2022 a été d'un autre niveau, Élisée. Ça nourrit des suspens un peu comme chez les messieurs et sur les terrains. Les filles ont vraiment montré un visage séduisant du football européen. Ce qui veut donc dire que le football féminin en Europe est vraiment en pleine progression, avec notamment différents championnats et surtout la Ligue des champions féminines qui est devenue de plus en plus attrayante. Conséquence, pendant cet Euro, les stades étaient quasi pleins. Et la finale de haute facture a tenu son rang avec ses premiers titres. De l'Angleterre chez les dames, pendant que les hommes sont à la peine, les dames prennent les flambeaux pour peut-être inspirer ces derniers à aller conquérir à nouveau les titres. L'Angleterre a bien mérité son titre et devant leur public, les filles ont assuré. Elles avaient été efficaces le long de cette compétition, avec notamment la victoire 4-0 sur la Suède en demi-finale. Et elles n'ont pas tremblé face à l'Allemagne en finale en l'emportant 2-1.
Voilà qui est clair. On annonçait cette Coupe d'Europe indécise et elle a été durant 25 jours. Alors Lawal, vous avez suivi la CAN féminine ainsi que l'Euro. On sent une nette différence.
Oui, Élisée, les réalités ne sont pas les mêmes. Les équipes européennes sont toutes, pour la plupart, professionnelles et les championnats professionnels du côté européen sont véritablement des championnats de grande valeur. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une différence nette de qualité entre la CAN et l'Euro. Maintenant, au-delà de tout ceci, on sait également que les joueuses africaines ont commencé par évoluer, par monter en puissance, par monter en valeur. Et là, ça va permettre d'avoir une Coupe du Monde beaucoup plus relevée, beaucoup plus intéressante que par le passé. Et quand on voit un peu la physionomie de tout ce qui s'est passé, surtout la finale de la CAN et la finale de l'Euro, on sent que la différence est grande, certes, mais les équipes africaines également ont leur mot à dire, pendant la Coupe du Monde prochaine.
On vient à présent sur le continent pour parler du premier tour des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats africains et qualification de Madagascar. Vainqueur 2-0 des Seychelles, tout comme le Botswana aux dépens des Swatini. Ça passe aussi pour le Sénégal, malgré sa défaite 1-0 à domicile. À Medine, les Lions de la Teranga ont fait l'essentiel à l'aller en s'imposant 3-0. Au second tour, ils croiseront le Sili National de la Guinée.
Oui, Élisée. Pourtant, les poulains de Papio avaient bien entamé en cette rencontre en ouvrant le score par Raymond Djebendour, mais les Libériens sont revenus au score avant de doubler la mise sur penalty. Avec cette défaite, le Sénégal va certes poursuivre l'aventure, mais c'est un avertissement pour cette équipe nationale locale du Sénégal qui va rencontrer la Guinée sa bête noire lors du prochain tour. Sachez enfin, Élisée, que l'histoire retiendra que la sélection nationale locale du Sénégal a été la première équipe sénégalaise à perdre au Stade Abdoulaye Wade Élisée.
Pas de miracle en revanche pour le Bénin Lawal, logiquement éliminé par le Ghana qui va retrouver au tour suivant le Nigeria. Défait 3-0 à l'aller, les coéquipiers du capitaine des écureuils Salim Bawa n'ont pu rien faire au retour. Battu une nouvelle fois mais 1-0, d'où sa déception.
Ce match, on l'a vraiment préparé. On ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On a eu des occasions qu'on pouvait concrétiser et avoir l'avantage du match. Mais on a poussé. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Au finish, on encaisse encore un but à la dernière minute. Vraiment, ça ne motive pas. Ça ne donne pas le moral. Vraiment. À la dernière minute, nous, on a manqué de concentration et ça nous a coûté cher. Vraiment, des matchs comme ça, c'est sur des détails. Et voilà, on est puni par ce petit détail-là. Ça a manqué d'agressivité. Et voilà, on a encaissé. On va essayer de retrousser les manches et puis, les fois à venir, de pouvoir faire mieux.
Lawal, finalement, la marche était trop haute pour les écureuils entraînés par Moussa Latondji.
Malheureusement, Élisée, les écureuils n'ont pas pu sortir leur épingle du jeu. Il fallait s'y attendre parce que déjà battu 3-0 à l'aller, on ne pouvait pas espérer une remontada de cette équipe-là qui n'a pas véritablement un fond de jeu. Il faut commencer par là.
Justement, et le choix des joueurs
montre littéralement que l'entraîneur n'était pas à la hauteur de la tâche à lui confier par les autorités de ce pays. Malheureusement, et il devrait, en toute logique, déposer le tablier. Les responsables de la fédération et les responsables du ministère des Sports doivent prendre leurs responsabilités et démettre Moussa Latondji de ses fonctions. On l'a vu par rapport à l'équipe senior, déjà deux journées d'éliminatoire de la CAN et deux défaites déjà. Et la plus cruelle,
quatre matchs officiels, quatre défaites.
La plus cruelle, c'est la défaite à domicile face au Mozambique. Non. Et on avait senti qu'avec le tournoi d'Antalya, qu'il avait une certaine valeur parce qu'il est allé remporter un premier trophée pour le pays, même si ce n'est pas un trophée majeur. Mais on a vite déchanté. Et puis, on constate malheureusement qu'il n'est pas à la hauteur. On doit pouvoir relancer le foot béninois en désignant un autre sélectionneur. Non pas chercher un expatrié forcément, mais il y a des valeurs encore sur le terrain qu'on pourrait exploiter pour relever le foot béninois, Élisée.
Merci. Là, voilà. Notez également les qualifications de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Mozambique ou encore de l'Angola. Valdo, en attendant d'affronter le Tchad au prochain tour, la RDC a joué deux fois le Congo-Brazzaville en amical.
Élisée, deux matchs amicaux en aller-retour qui valaient la peine, notamment à cause d'un mauvais rythme du championnat de la RDC qui a connu un arrêt de trois mois avant de se poursuivre dans des conditions peu commodes. Les raisons qui ont poussé les sélectionneurs de la RDC de qualifier ces stages de miraculeux pour son effectif qui s'en est tiré avec un blessé, Glody Lukonza. C'est ce genre de matchs qui peuvent aider les staffs techniques à se faire une idée sur son effectif et surtout la santé physique des joueurs afin de mettre en place un plan tactique tenant compte de la forme des uns et des autres. 10 jours de stage, 2 matchs amicaux face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, 1 victoire, 2-0 à Kinshasa et le nul d'un but à Brazzaville. Pour la plupart, les joueurs de la RDC ont manqué du rythme, mais sont tout de même restés efficaces derrière, avec notamment les défenseurs centrales du tout-puissant Mazembe, Kevin Mondeko, qui a assuré derrière.
Les vainqueurs du second tour accéderont à la phase finale organisée en début d'année de 2023 en Algérie, on le rappelle. Jules, ce CHAN a véritablement pris de l'ampleur sur le continent.
En effet, Élisée, la prise de conscience de l'importance du CHAN n'est plus à démontrer, surtout depuis la réussite de sa phase finale lors des 2 dernières éditions au Maroc et au Cameroun. D'abord au niveau des acteurs, c'est-à-dire des joueurs eux-mêmes, la motivation est incontestable. Grâce au développement de la formation, l'organisation plus moderne des équipes et des compétitions nationales, l'amélioration des conditions de jeu, la diffusion des matchs et le financement plus important de la CAF FIFA via les fédérations nationales. Il y a donc un intérêt retrouvé pour le sport roi, considéré désormais comme un moyen d'ascension sociale. L'amélioration des compétitions panafricaines de clubs, ainsi que la bonification du CHAN, désormais considéré dans sa phase finale comme une tribune, une véritable foire au talent pur, fréquentée par des recruteurs venus du palier supérieur, renforce cette tendance. Et alors qu'avant, les fédérations nationales considéraient le CHAN comme une formalité à remplir afin d'éviter d'éventuelles sanctions de la CAF par forfait, celle-ci devient progressivement l'occasion de visionner directement les éléments susceptibles de compléter les effectifs de l'équipe fanion, d'où la lutte acharnée pour la qualification.
Ce second tour se disputera entre le 26 et le 28 août prochain. Pendant ce temps, les 2 prochaines journées des qualifications pour la CAN de 2023 décalée en 2024, prévues dans 2 mois, c'est-à-dire en septembre, ont été repoussées au mois de mars 2023 par la CAF. Amédine, c'était l'appel du sélectionneur Aliou Cissé après les 2 matchs de la 2e journée.
Tout à fait, Élisée, le coach des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, qui craignait une mauvaise participation des équipes africaines à la prochaine Coupe du Monde prévue au Qatar à partir du mois de novembre, avait demandé un report des matchs des éliminatoires de la CAN 2023 du mois de septembre afin de bien préparer le Mondial 2022 à travers des matchs amicaux. Il faut dire que son appel a été entendu car les journées de qualification pour la Coupe d'Afrique prévues au mois de septembre sont repoussées au mois de mars 2023 par la Confédération africaine de football. Je pense que ce report est une très bonne chose car il va permettre aux 5 représentants du continent africain de mieux préparer quand même la Coupe du Monde. Je vous parlais du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, du Maroc et de la Tunisie, puisque ces 5 pays vont disputer à la place des matchs des éliminatoires des rencontres de préparation du Mondial contre des équipes qui ressemblent à leurs adversaires de la Coupe du Monde, comme l'avait demandé à l'UCC. Il faut dire, Élisée, que ce report des matchs des éliminatoires était prévisible après le déclarage de la CAN, comme quoi, à quelque chose de malheur et bon, Élisée.
Justement, cela va donc permettre aux cinq mondialistes du continent de disputer à la place des matchs de préparation pour la Coupe du Monde au Qatar prévue du 21 novembre au 18 décembre. Amine, le courrier de la Fédération égyptienne de football a finalement mis plus de pression sur la CAF.
C'est la décision la plus sage, la plus judicieuse, celle qui préserve les intérêts des représentants de l'Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, celle qui tient en compte l'ajournement de la CAN 2023 qui aura lieu finalement début 2024. Le fait que l'Afrique ne soit pas véritablement dans l'urgence d'organiser ces éliminatoires, le fait aussi que les dates FIFA, les prochaines en tout cas, soient à 2 mois de la Coupe du Monde, il fallait bien évidemment cette refonte du calendrier de façon à donner aux sélections qualifiées pour la Coupe du Monde cette chance de disputer des rencontres amicales contre les sélections d'autres continents. A priori, ce ne seront pas des rivaux venus du vieux continent, donc de l'Europe, mais peut-être d'Amérique du Sud ou d'Asie. Ça sert à mettre tous les atouts du côté de la Tunisie, du Maroc, du Ghana, de la sélection camerounaise et évidemment de la sélection sénégalaise. Pourvu que ces sélections puissent profiter au maximum des sparring partners qu'elles auront affrontés, qu'elles fassent très rapidement, qu'elles établissent très rapidement un calendrier sérieux pour ces rencontres amicales, de façon à pouvoir profiter de cette aubaine.
Le report de la CAF a aussi offert une opportunité de reprogrammer les matchs restants. Jules, il était nécessaire, vu qu'on avait 2 matchs en 3 jours à chaque journée.
Élisée, 2 raisons au moins militent pour que les matchs éliminatoires de la CAN 2023 soient repoussés. La première est qu'avec un calendrier aussi démentiel qui faisait correspondre ces journées éliminatoires à la période délicate de redémarrage des championnats, l'intégrité physique des joueurs pouvait être en jeu. De plus, depuis la mort du footballeur camerounais Marc Vivien Foué en demi-finale de la Coupe des Confédérations à Lyon en 2003, alors qu'il était en train de livrer son 4e match de la compétition en 9 jours seulement, et de surcroît en fin de saison, la CAF a eu l'intelligence de ramener l'espacement minimal des matchs à 4 jours, toutes compétitions confondues. La deuxième raison est celle déjà dénoncée par l'entraîneur sénégalais Alioune Cissé, qui, dès la première publication du calendrier, avait demandé un report pour permettre aux représentants de l'Afrique en Coupe du Monde en novembre de se préparer décemment afin de remplir leur mission, qui est celle de maintenir, voire d'améliorer la valeur marchande du football continental par leurs performances. Des performances pas évidentes, puisqu'il s'agit de transformer en quelques jours de stages et de matchs amicaux une simple sélection de joueurs expatriés en véritable équipe, mais pourvu que les décideurs, de leur côté, s'y préparent rationnellement.
Au même moment, l'instance panafricaine refute toute idée de retirer l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, malgré les rumeurs l'envoyant au Nigeria et au Bénin. C'est l'un de ses membres influents qui l'a annoncé sur la chaîne britannique BBC. On le rappelle, le président de la Fédération nigériane de football, Amadou Pinnick, a affirmé que son pays va postuler à une co-organisation avec le Bénin, sous-entend que la compétition devait être retirée à la Guinée, qui accuse d'énormes retards dans la réalisation des infrastructures. Valdo, on remarque que la CAF fait calmer le jeu.
Et bien entendu, Élisée, la CAF est appelée à bien jouer son rôle en pareille situation où rien d'officiel de sa part n'a été annoncé en guise de retrait de la CAN 2025 à la Guinée, même si la construction des infrastructures est loin de répondre aux attentes. Et cela ne donne nullement le droit au Nigeria ou au Bénin de se l'approprier d'eux-mêmes, d'une part, et de l'autre, cette prédisposition de ces deux pays à co-organiser cette compétition peut être vue d'un angle positif, si et seulement si elle pourrait servir d'alternative au cas où. Mais est-il que c'est à la CAF que revient le droit d'attribuer et de retirer l'organisation d'une compétition? Toutefois, la position de la CAF face à ce qui peut être qualifié des pressions du Nigeria et du Bénin témoigne de sa conscience à la Guinée, qui, à son tour, doit mettre le boucher double concernant la construction des infrastructures sportives pour ne pas abuser et cette conscience qu'ils bénéficient de la CAF, faute de quoi, ça sera l'occasion pour les Nigérians et Bénivins d'atteindre leur objectif, avec bien entendu la bénédiction de la CAF.
Pourtant membre du comité exécutif de la CAN, Amin, le dirigeant nigérian est-il allé trop vite en besogne?
Je vous dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui est certain, c'est que si un membre aussi influent qu'Amadou Pénic prenne ce genre d'initiative et annonce ce type de déclaration, c'est qu'il y a des doutes très raisonnables au sein de la CAF autour de la capacité de la Guinée à tenir ses engagements et à pouvoir organiser la CAN en 2025 dans les standards requis pour ce type de compétition à 24. On ne veut surtout pas retomber dans le scénario à la camerounaise. Il va falloir préparer à l'avance certains plans B. Ça peut être une candidature conjointe entre le Nigeria et le Bénin, c'est en tout cas la volonté d'Amadou Pénic. D'autres pays pourraient également manifester leur intérêt. Mais il va falloir que ça se fasse en deux temps. Tout d'abord, que l'on juge sur pièce la capacité de la Guinée à tenir ses engagements. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul stade aux normes, et encore, puisqu'il n'a pas été homologué pour les éliminatoires de la CAN 2023. Et puis, voir dans quelle mesure, en retirant l'organisation à la Guinée, d'autres pays pourraient proposer leur candidature. Il faut que ça se fasse en deux temps, et non pas en lançant des rumeurs à droite et à gauche, de façon à ce que certains pays se manifestent, avant que la situation où que l'on donne tout le temps aux Guinéens, où que l'on donne une dernière opportunité aux Guinéens de prouver leur bonne volonté, surtout leur capacité à tenir leur engagement, c'est-à-dire organiser la CAN dans des normes et dans des standards requis à 24 en 2025.
Maintenant, au-delà de tout, Jules, la CAN 2025 peut-elle avoir lieu en Guinée?
Élisée, cette énorme fuite, ou tout simplement ce ballon d'essai lancé par une notabilité du football africain, même si celle-ci n'en a pas qualité, de surcroît sur des antennes d'un média prestigieux, nous ramène à l'adage populaire qui veut qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. Certes, il est évident que la situation socio-économique, voire politique difficile actuelle de la Guinée, ne milite pas pour que ce pays accueille dans les délais un événement aussi prestigieux que celui de la CAN d'aujourd'hui. Mais la Guinée, pour avoir été désignée avant le format désormais imposé, peut soit se désister, soit solliciter un délai et même une possibilité de co-organisation. Ceci expliquerait d'ailleurs la préparation d'un plan B de remplacement comme celui évoqué par le Nigérian Amadou Pénic, avec une co-organisation qui aurait fière allure aux côtés du Bénin voisin, le contexte de la CDAO permettant aussi des flux faciles de population, ce qui garantirait le côté populaire de l'événement. Par ailleurs, une telle co-organisation quasi systématisée pourrait permettre aux pays moins forts d'accueillir la CAN sans appréhension, et à la CAF de se débarrasser définitivement du syndrome de la girouette qui abîme déjà son image.
Merci Jules. Outre le pays auteur de cette CAN, assez d'interrogations également sur sa période d'organisation. Devrait-il avoir un glissement pour 2026? Lawal, la CAF pouvait anticiper et faire un calendrier à 4 ans.
Oui, Élisée, malheureusement, les responsables de la CAF ne savent pas prendre les décisions opportunes, les décisions qu'il faut au moment où il le faut. On sait bien que le pays n'a qu'un seul stade.
Et oh, la CAN est prévue en 2025
pour 24 équipes. Alors que le pays, au plan politique, est très instable, on connaît tous ces paramètres-là, mais on ne veut pas prendre de décision. Maintenant, si Amadou Pénic se hasarde à dire ce qu'il a dit, c'est parce qu'il sait. Il est dans le secret des dieux. Donc, fondamentalement, on se demande ce qui se passe dans la tête des responsables de la CAF pour qu'ils ne prennent pas les décisions nécessaires. Maintenant, ils vont forcément chercher à colmater ces brèches-là et décider de ce qui doit être fait. Mais je vous assure que cette information qui a fuité, elle n'est pas anodine. Il faut s'attendre à ce que ce soit une information qui finira par être confirmée, Élisée.
Et trop d'incertitudes dans cette affaire. En tout cas, les prochains jours vont plus nous édifier. Merci Laval.
Élisée, c'est moi.
Allez, Sporama, c'est fini. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, profitez des programmes de notre radio. Au revoir.